Honneur et patrie, voici le général de Gaulle.
Le 30 août 1940, sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle informe les Français que son plan a fonctionné.
Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres. Sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire.
Le Tchad, premier pays à rallier le panache du général. Et ce n'est pas tout.
Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants.
Le Cameroun a donc lui aussi basculé du côté gaulliste. Et ce n'est pas tout.
Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires.
Ainsi, en trois jours, une partie de l'Empire colonial français offre au général de Gaulle une légitimité politique et territoriale. Un vrai coup de poker, fomenté entre autres par le colonel Leclerc. C'est la trame de ce troisième épisode.
Écoutez le général Leclerc.
La France de De Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
Après l'armistice de l'été 1940, l'Empire colonial français en Afrique est au centre de tous les enjeux entre Pétain et De Gaulle. Une vraie guerre civile. D'abord, il y a l'Afrique du Nord, avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Trois contrées placées sous l'autorité du régime de Vichy.
Ici Vichy, la voix de la France.
Ensuite, il y a l'Afrique occidentale française, l'AOF, un vaste territoire où l'on trouve entre autres le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il y a aussi l'Afrique équatoriale française, une fédération de quatre colonies, et enfin, quelques pays placés sous mandat français, comme le Cameroun ou le Togo. Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment l'Afrique noire a sauvé l'honneur de la France et fait entrer Leclerc dans l'histoire.
Philippe de Haute-Cloque n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La Cavale du général Leclerc. Troisième épisode, le serment de Koufra.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit !
Ouais ! Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute sa division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvrier de la banlieue parisienne, évadé d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée de Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Haute-Cloque.
Le récit débute le 6 août 1940.
Ouverture du robinet d'essence.
À vos ordres.
Mélange prêt.
Ce jour-là, un hydravion quitte l'Angleterre pour rejoindre l'Afrique subsaharienne.
On y va.
À son bord, trois émissaires du général de Gaulle, dont Philippe Leclerc, jeune capitaine de 38 ans.
Il n'y en a plus pour tellement longtemps.
Ces trois hommes, gaullistes de la première heure, ont une mission bien précise, confiée par l'homme du 18 juin.
Alors, De Gaulle, à ce moment-là, a le regard tourné vers l'Empire colonial.
Géraud Létang est historien.
Parce que c'est aussi là un autre élément important de l'appel du 18 juin. C'est que pour continuer le combat, pour rester fidèle à ses alliances, la France a un atout qui est son empire colonial, qui a été mobilisé, mais dont les troupes ne se sont pas battues, dont les structures ne se sont pas effondrées, et que l'armistice ne touche pas immédiatement. Donc il y a incontestablement une série d'opportunités qui s'ouvrent. Donc Leclerc est envoyé avec deux autres Français libres de la première heure, un autre militaire, Claude-Étienne Boislambert, et un civil, René Pleven, dans un hydravion vers le Nigeria.
J'ai encore ici, au musée de l'Ordre de la Libération, l'original de l'ordre de mission, qui était à la fois vaste et vague.
Claude Étier de Boislambert, 1969.
Mais enfin, qui nous accréditait et qui nous donnait ordre de tenter de rallier ces territoires de l'Empire à la cause de la France libre, à la cause des Alliés.
Dans un premier temps, il s'agit d'une sorte de coup de poker, un coup de bluff.
L'historien Eric Jennings.
Il faut savoir que le général de Gaulle tente de rallier de nombreuses colonies, c'est-à-dire qu'il envoie des télégrammes à droite, à gauche, à l'été 1940, et les télégrammes ne fonctionnant pas très bien, il envoie ensuite des représentants, des délégués, dans divers territoires pour tenter de les faire basculer. Et c'est dans ce cadre qu'il dépêche donc des hommes clés, des hommes de confiance, pour aller rallier à la fois le Tchad, le Cameroun, et ensuite la clé de voûte de tout l'édifice, Brazzaville, qui n'est autre que la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et donc c'est un coup de poker, puisque ces hommes auraient très bien pu se faire arrêter, tout aurait pu échouer. Et la prise de risque est majeure, non seulement pour ces quelques délégués représentant le général de Gaulle, mais aussi pour les intérêts locaux qui vont s'allier avec eux. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, à Brazzaville, plusieurs unités de tirailleurs locaux vont prendre le parti de la France libre à leurs risques et périls, puisque si tout avait échoué, ils auraient très bien pu être fusillés pour mutinerie, voire pour trahison.
Au rapport, commandant.
Donc il y a une grosse prise de risque et il y a effectivement ce coup de poker.
Ce commando gaulliste, en charge de faire basculer de leur côté cette partie de l'Empire, ont face à eux deux territoires. D'une part, le Cameroun et d'autre part, l'Afrique équatoriale française. L'AEF.
L'Afrique équatoriale s'étend comme un gigantesque trait d'union entre le centre désertique de l'Afrique et les rivages inhospitaliers de la côte atlantique. Énorme, 6 fois la France, elle comprend au nord une zone saharienne tempérée par le lac Tchad. Plus au sud, une zone d'herbe rappelle la savane américaine des romans d'aventure.
Commençons par l'Afrique équatoriale. Il s'agit d'une fédération de 4 colonies françaises, situées au cœur de l'Afrique et qui réunit le Tchad, le Gabon, le Moyen Congo et l'Oubangui-Chari.
En fait, cette Afrique équatoriale, c'est à peu près 3 millions d'habitants à l'époque.
Géraud Létang.
C'est la dernière expansion coloniale de la France, puisque en fait, le Tchad n'a été pacifié que pendant la Première Guerre mondiale. C'est une région de l'Empire qui a été très peu développée en raison de cette expansion coloniale récente. C'est en fait une fédération de colonies où le travail forcé joue un très grand rôle, notamment dans des cas paroxystiques. Par exemple, le chemin de fer du Congo-Océan, où il y a eu 15 000 à 30 000 morts sur les 130 000 travailleurs de toute l'Afrique équatoriale mobilisée. Donc l'expérience de la mort de masse en Afrique équatoriale française, c'est par le travail forcé.
L'AEF, un vaste territoire où les colons français exploitent les hommes et les richesses naturelles. Alors, comment ont réagi ces citoyens de la métropole face à la défaite de l'armée française au printemps 1940 ?
La réaction des colonisateurs européens à la défaite en AEF est très particulière pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas de radio. La dernière info qui parvient par la radio à ces colonisateurs européens, c'est que le maréchal Pétain forme un gouvernement. Ils n'en savent pas plus.
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves.
Donc, l'AEF fait une expérience qui ne s'est jamais produite auparavant, c'est-à-dire une colonie complètement coupée de sa métropole.
Il y a quelque chose ?
La friture et les Hitler !
Allez, là.
Cet isolement inédit génère de grandes inquiétudes chez les colonisateurs. Et dans ce climat d'incertitude, ils se questionnent sur leur avenir dans cette France humiliée par l'Allemagne.
Il faut trouver un moyen de calmer tout cela. Et celui qui va avoir l'idée d'un compromis, qui est « il faut désormais calmer la situation vu ce qui vient de se passer », c'est le gouverneur Bourdillon qui va diffuser la nouvelle qu'il y a une autorité qui vient de se former à Londres, qui plus est une autorité française, à laquelle il est possible de se rallier, c'est-à-dire le général de Gaulle.
Honneur et patrie.
Bernard-Henri Bourdillon est un administrateur colonial britannique en poste au Nigeria.
Excellence.
Et il joue un rôle crucial dans cette affaire. C'est lui qui fait connaître De Gaulle et la France libre à Félix Eboué, le gouverneur du Tchad, une colonie française de l'Afrique équatoriale. Et comme Félix Eboué refuse de se soumettre à Philippe Pétain, il bascule.
Le 26 août 40, Félix Eboué a proclamé le ralliement du Tchad au général de Gaulle. Félix Eboué, c'est un homme de 56 ans, il est guyanais et c'est le premier noir qui a été nommé gouverneur des colonies. Félix Eboué est installé au Tchad avec son épouse et sa fille, mais il faut savoir que ses trois fils sont prisonniers parce qu'ils combattaient en métropole et il n'en a plus aucune nouvelle. Donc c'est vraiment un grand bond vers l'inconnu que fait Félix Eboué. Félix Eboué a un parcours un peu particulier. Félix Eboué donc, est un jeune guyanais dont les grands-parents étaient esclave, et il va avoir une bourse d'études qui va lui permettre d'étudier en métropole, et il va faire le choix de la carrière coloniale, de l'école coloniale qui forme les administrateurs coloniaux. Félix Eboué, c'est quelqu'un qui cherche en permanence à concilier l'universalisme républicain et l'attachement aux particularités locales. Après, Félix Eboué reste un colonial. Il sait utiliser la violence coloniale quand il s'agit d'appliquer du travail forcé. Mais lui vient d'un autre monde colonial que celui de Leclerc, par exemple.
Pour résumer, Félix Eboué est socialiste, disciple de Jaurès, et n'a rien à voir avec l'action française de Charles Maurras.
Demandez l'action française !
Et il décide de continuer le combat contre l'Allemagne en rupture avec le régime de Vichy.
Vous allez entendre Monsieur Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française.
Discours de Félix Eboué, 1942.
Il fallait aux Français trahis mais insoumis, à la fois un signe et un chef. Dès le 18 juin 1940, nous avons compris que la France pouvait l'un et l'autre en la personne du général de Gaulle, et c'est sans discussion, car on ne discute pas le destin de la patrie, que nous nous sommes rangés derrière lui.
Le Tchad s'est donc rallié à De Gaulle. De son côté, le capitaine Leclerc, lui, a pour mission de faire basculer le Cameroun. Mais la situation politique du pays n'est pas simple.
Alors déjà, sur le plan institutionnel, le Cameroun est un endroit assez complexe, hein, puisqu'il s'agit non pas d'une colonie, mais d'un territoire sous mandat de la Société des Nations.
Eric Jennings.
Un double mandat, en fait, puisqu'il y a une tranche du Cameroun sous contrôle britannique et une autre tranche plus grande sous contrôle français. Et donc, il y a une sorte de co-gouvernance, si vous voulez, franco-britannique. Et il faut superposer cela sur une ancienne présence allemande, puisque avant de devenir donc un pays sous mandat de la Société des Nations, eh bien, le Cameroun était une colonie allemande. Et donc, on enregistre sur place une véritable crainte, je dirais presque une paranoïa, d'un retour de l'allemand, une hantise vraiment française. On craint que certains Camerounais n'avancent la cause d'Hitler ou n'avancent la cause allemande. Alors ça peut paraître très bizarre avec le recul, mais il faut se souvenir donc qu'il existait certains milieux au Cameroun acquis à la colonisation allemande, germanophones déjà, parlant l'allemand, proches de certaines mouvances allemandes, de certaines compagnies allemandes, etc.
Heil Hitler!
Et donc ça, évidemment, ça attise les inquiétudes. La mission de Leclerc, qui consiste à faire basculer le Cameroun, elle est lancée dans la nuit du 27 août 1940 avec 48 hommes munis de 17 pistolets prêtés par les Britanniques à Victoria, c'est-à-dire dans la tranche britannique du Cameroun. Donc, les moyens sont assez dérisoires.
C'est avec ces hommes que nous sommes partis, Leclerc et moi, à bord de trois pirogues.
Claude Étier de Bois-Lambert, 1969.
En empruntant les chenaux dans les palétuviers qui bordent au nord l'estuaire du Woury, le grand fleuve qui passe devant Douala, c'est à bord de ces pirogues que nous nous sommes une belle nuit propulsés vers Douala.
Deux pirogues arrivent de nuit à Douala le 26 août 40.
Géraud l'étang.
Et vont rencontrer le capitaine Louis Diot, qui est un officier qui sert dans le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad. Le dernier mot est important parce que le Tchad a basculé la veille. Et donc, ce régiment, qui en fait est dispersé dans toutes les villes d'AEF, puisqu'ils étaient censés embarquer en catastrophe en 1940 et que la défaite a été tellement brutale qu'ils sont totalement dispersés dans les étapes qu'ils devaient faire pour gagner la métropole, eh bien, va accepter l'autorité de ce nouveau colonel Leclerc et ensemble, ils vont faire route vers le palais du gouverneur à Douala pour prendre le contrôle du palais.
Allez vite !
Et ensuite, ils vont se rendre à Yaoundé pour prendre le contrôle de toute la dimension économique du Cameroun.
Prenez-moi le texte d'un sans-fil, voulez-vous ?
Télégramme de Leclerc aux divisions du Cameroun, le 27 août 1940. Le Cameroun, depuis le jour même de l'armistice, a crié son indignation. Son désir de continuer la lutte aux côtés des alliés, sa volonté de rester libre et de ne pas se soumettre à l'ennemi. Le général de Gaulle, chef reconnu des Français libres, a entendu cet appel. En son nom, j'ai pris ce matin, 27 août 1940, le poste de commissaire général, déclarant le Cameroun autonome politiquement et économiquement.
Et c'est là un véritable putsch qui s'opère dans la capitale administrative.
Eric Jennings.
C'est-à-dire que les officiers sur place sont interpellés par les gaullistes qui révolvèrent au poing les sommes de répondre à la question suivante. Voulez-vous rallier la France libre pour poursuivre la guerre contre les Allemands et les Italiens ?
Je compte jusqu'à 3. 1. 2.
Ceux qui répondent par la négative sont invités à rejoindre l'Afrique occidentale française qui, elle, est demeurée loyale, entre guillemets, à Pétain.
Sur place, à Yaoundé, une partie de la population française se réjouit, à l'image de René Mauclair, un Français libre.
Au nom du Cameroun français, conquis sur le Bosch avec le sang français, anglais et belge, nous déclarons notre volonté de rester dans le Cameroun français des Français libres. Nous repoussons avec indignation et mépris toute tentative de nous placer ici devant le fait accompli par Vichy ou par Berlin, et nous refusons encore, avec une volonté farouche et décidée, de servir sous la croix gammée.
Grâce à ce coup de force de Leclerc, le Cameroun se rallie à la France libre le 27 août 1940. Le surlendemain, Brazzaville suit à son tour. Et en trois journées, qu'on a surnommé après coup les Trois Glorieuses, l'Afrique équatoriale est devenue gaulliste.
Alors objectivement, il faut bien le souligner, ce ne sont pas les territoires les mieux lotis de l'Empire colonial français. Hein. Leclerc le dira lui-même, il aurait tant préféré, et le général de Gaulle aussi, ils auraient tant préféré débuter depuis le Maroc ou l'Algérie, qui aurait permis une implication plus rapide dans le théâtre de guerre européen.
Même chose. Yalla.
Mais ce n'est pas le cas. Les autorités, tant au Maroc qu'en Algérie, demeurent sourdes aux appels du général de Gaulle.
Que dire de ce ralliement de l'Afrique équatoriale ?
Alors, pour la France libre, c'est absolument capital. Sans ce revirement, eh bien, la France libre, sur le papier, serait restée un régime théorique. C'est vraiment l'Afrique équatoriale française et le Cameroun qui apportent au général de Gaulle à la fois une base fiscale, une légitimité internationale et surtout des troupes.
Au rapport, commandant !
Et des matières premières.
Une base fiscale, car les impôts sur place sont désormais collectés pour le compte de la France libre.
Et donc l'apport de ces colonies va être absolument capital, tant en matière de légitimité qu'en termes de ressources humaines également.
tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale et rentrer dans la guerre.
Récapitulons. Envoyés en Afrique, tels des mousquetaires par De Gaulle, Leclerc et René Pleven ont réussi à mettre la main sur un vaste territoire de l'Empire colonial. C'est le début de l'aventure gaulliste. Galvanisés par ce succès flamboyant, ils espèrent maintenant conquérir toutes les colonies françaises de l'Afrique. Et le colonel Leclerc se fait le porte-voix de la France libre.
Appel de Leclerc aux Français d'Afrique, le 20 septembre 1940 au Cameroun. Français de l'AOF. Français de Dakar. Français de l'Afrique du Nord. L'heure sonne pour vous. Le devoir vous appelle. Écoutez, venant de France, la supplique de votre mère, de votre femme. Écoutez la voix de vos fils qui vous parlent. Toi qui es encore libre, lutte pour nous délivrer. Sois digne de notre courage à nous qui ne pouvons plus rien. Nous t'en supplions. Dresse-toi fier, aux côtés de ceux qui combattent pour abattre nos oppresseurs.
Couchez-vous !
À cet appel, il n'y a qu'un geste, qu'une réponse. Vous joindre à nous.
La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes.
Après le ralliement de l'Afrique équatoriale, le général de Gaulle vise désormais l'ouest du continent. Et donc, il veut faire tomber Dakar et le Sénégal dans son escarcelle.
La bataille de Dakar rentre dans la stratégie africaine de De Gaulle.
Gérôle étant.
Le premier acte, c'était rallier l'AEF et le Cameroun. Maintenant arrive le deuxième acte, rééditer le même procédé, une impulsion extérieure, un mouvement intérieur, dans ce qui est le morceau d'Afrique le plus important en termes de territoire, l'Afrique occidentale française, face au point le plus névralgique de l'Empire colonial français, c'est-à-dire Dakar. Et là, cette fois-ci, le but n'est pas de rallier territoire par territoire, mais de rallier en bloc.
Et cette fois-ci, De Gaulle lui-même veut s'impliquer. Donc, il embarque sur un navire au sein d'une flotte anglaise, direction Dakar.
L'idée étant que cette flotte apparaît au large de Dakar. Tout à coup, un mouvement de gens qui veulent continuer la guerre voient arriver ces envoyés et donc vont prendre le contrôle des lieux de pouvoir à Dakar. Et De Gaulle mise notamment sur cet ancien gouverneur de l'AEF passé à Dakar qui s'appelle Pierre Boisson et qui a dit dès le début qu'il voulait continuer le combat dans plusieurs télégrammes, qui a pris des positions en ce sens. Donc De Gaulle l'a préparé, il a même écrit de sa main des tracts à larguer sur Dakar. Tracts qui disent « Nous venons vous apporter des vivres pour éviter la famine », par exemple. Donc c'est vraiment, on refait ce qui a été fait en AEF en AOF. Le problème, c'est que rien là ne se passe comme prévu dès le début. Vu que le gouverneur Boisson fait tirer sur les émissaires gaullistes, sans même chercher à discuter.
« Vous ouvrirez le feu aussitôt que vous pourrez. »
La Royal Navy riposte à son tour, donc cela tourne à l'affrontement, hein, à la bataille. Bataille très inégale en réalité, parce qu'il y a 2 tués côté français libre et 5 blessés. Par contre, côté Vichy, il y en a 84 et 2000 blessés. Donc c'est-à-dire que c'est une énorme catastrophe pour De Gaulle à plusieurs niveaux. Il n'a pas l'AOF, donc une ouverture sur l'Atlantique, une colonie développée, des ressources, des hommes. Il perd toute crédibilité parce qu'il n'est plus vu comme quelqu'un capable d'attirer, mais comme un fauteur de guerre civile. Et il ouvre la porte à une propagande et à la répression vichyste dans tout l'Empire colonial, puisque désormais, on va présenter De Gaulle d'abord, les gaullistes de l'Empire colonial ensuite, comme des gens vendus aux Britanniques qui cherchent à tuer des Français. Donc commence pour De Gaulle un moment de doute affreux, puisque la dynamique qu'il avait espérée, la réaction en chaîne qu'il souhaitait, s'arrête brutalement à moins de la moitié, je dirais, dans le cas africain.
Cette bataille de Dakar est un fiasco pour De Gaulle. Et en France, la propagande de Vichy s'en donne à cœur joie.
Pouvez-vous me dire quelle a été votre réaction personnelle lorsque le 23 septembre, l'attaque de Gaulle et des Anglais a eu lieu contre Dakar ?
Témoignage d'un colon pétainiste installé à Dakar.
Une réaction assez violente. Après les premiers coups de canon sur la ville, les premières bombes sur le port, nous avons tous ressenti de l'indignation et de la colère.
Après cette tragique bataille de Dakar, où des Français ont tiré sur des Français,
et ici, à Dakar,
De Gaulle vacille.
Les Français, obéissant aux hommes de Vichy, à ceux-là même qui ont refusé de faire la guerre aux envahisseurs, ont tiré sur des Français libres, sur des frères. Quelle tristesse ce soir, et quel dégoût.
L'homme du 18 juin pense qu'il a perdu son pari de sauver la France et il est même au bord de renoncer. Mais il a à ses côtés un officier très opiniâtre.
Suite à cet épisode, De Gaulle bénéficie d'un soutien important qui est celui du colonel Leclerc, gouverneur du Cameroun, qui va précisément, depuis le Cameroun, montrer qu'on peut en faire une base pour de futurs combats. Sachant que De Gaulle ramène avec lui un certain nombre de militaires qui vont constituer ce qui deviendra l'essentiel des forces françaises libres. Donc le Cameroun et l'AEF par extension devient une sorte de station d'aiguillage où les forces françaises libres vont être envoyées sur les différents théâtres d'opération, notamment grâce aux Britanniques.
Depuis le Cameroun, sous l'impulsion de Leclerc, la France libre compose son armée pour participer à la lutte aux côtés des Anglais.
Alors on a tendance à penser au premier combattant français libre comme étant un marin de l'île de Sein. Ce n'est pas faux.
Eric Jennings.
Il y a eu, bien entendu, des marins bretons qui ont été parmi les premiers à rallier donc, le général de Gaulle.
En effet, dès juin 1940, tous les hommes de l'île de Sein en Bretagne ont rejoint De Gaulle à Londres. 129 marins sur leur navire.
L'Arzénith, Rouennaise Armor, la Velléda, Rouennaise Arbeok, le Corbeau, l'Yvonne Georges, et je n'oublie pas Stella Maria. Voilà les navires qui ont emmené les hommes d'ici pour rejoindre ceux qui combattaient encore en attendant que tout le monde s'y remette.
Et donc, il y a eu, bien entendu, des marins bretons qui ont été parmi les premiers à rallier le général de Gaulle. Mais il faut se souvenir aussi que 17 000 soldats ont été recrutés en AEF et au Cameroun entre 1940 et 1943. J'insiste sur ce chiffre, 17 000 combattants recrutés en AEF et au Cameroun, ça peut paraître relativement peu compte tenu du nombre de troupes coloniales en France en mai-juin 1940. Mais à l'échelle des Français libres, c'est tout à fait significatif, puisque selon les estimations, on frôlait les 30 000 troupes dans les rangs de la France libre.
Incorporé. Bravo soldat, je te félicite pour ton courage et ton entrain à venir défendre maman patrie.
Oui. La France libre est donc une petite armée, hein, dans un premier temps, en tout cas jusqu'en 1943. Et au sein de cette petite armée, eh bien, les forces d'AIF et du Cameroun sont donc surreprésentées.
Ces premiers soldats de la France libre, camerounais ou tchadiens, comment sont-ils recrutés ?
D'une part, il y a incontestablement des volontaires. Alors, pour schématiser, il y a souvent des volontaires dans les villes, dans les centres urbains, des gens qui savent, par exemple, ce que Hitler pense des Africains. C'est un cas de figure.
Moi, je me bats aux côtés de la France contre le nazisme.
D'autres se portent volontaires par esprit, j'allais dire, presque patriotique, voire impérial. Parce qu'il ne faut pas oublier cette donnée. D'autres encore évoquent l'apport de l'Afrique à la cause des Alliés. Donc il y a toutes ces convictions qui, effectivement, vont conduire certains à se porter volontaires.
On libère le pays et on rentre chez nous.
Charles.
Ensuite, je dirais qu'il y a toute une tranche où les choses sont plus floues. Plus floues parce que on demande à des gens, donc à la campagne, en brousse, comme on disait alors en Afrique, pour reprendre un terme colonial, on demandait à des gens qui ne parlaient pas forcément le français et ne le lisaient très certainement pas, de signer des actes d'engagement dans une langue qui leur était étrangère. Et ensuite, je dirais qu'à l'autre extrême, toute une série de cas de figure qui sont plus que floues, et elles sont carrément troublantes. C'est-à-dire que vous avez des cas où on a dit au chef local d'assembler pour le surlendemain une centaine de soldats qui partiront rejoindre les rangs français libres. Et c'est donc à la liberté du chef de choisir ses hommes. Ces chefs donc recrutent dans des conditions souvent très douteuses. Parfois, il s'agit de vengeance personnelle contre certains habitants du village. Ils recrutent à droite et à gauche. Tant et si bien que les recruteurs français libres se retrouvent parfois devant des gens handicapés, devant des gens qui ont dépassé très nettement la limite d'âge, voire des jeunes qui ne sont pas encore à l'âge de combattre. Tout ça, soit pour protester les conditions, soit parce que, voilà, il fallait obéir.
Derrière, debout. Allez, plus vite, Garland, Gagnard.
Revigoré par cette armée africaine qui s'organise tant bien que mal, le général de Gaulle observe une carte de la région. Et soudain, lui vient une nouvelle idée.
Alors, de Gaulle, en regardant une carte de l'AEF, voit bien l'intérêt du Tchad.
Géraud l'étend.
C'est que il a désormais une frontière commune avec un pays, du moins un territoire, qui appartient à l'Axe, c'est-à-dire la Libye contrôlée par l'Italie fasciste. Donc, il y a la possibilité de poursuivre le grand rêve de De Gaulle, surtout après l'échec de Dakar qu'il faut effacer, qui est de créer un front autonome de la France libre dans les confins tchadiens, c'est-à-dire un front sous commandement français libre, où se battent des forces françaises libres qui vont attaquer les Italiens en Libye. En réalité, c'est une mission d'une envergure grandiose, mais impossible à tenir vu la faiblesse des moyens dont le clerc dispose au Tchad.
Avec quelques centaines d'hommes sous ses ordres, le colonel Leclerc se voit donc confier une mission. Partir du Tchad pour aller affronter les fascistes italiens en Libye.
Message de Leclerc à la population du Tchad à Fort Lamy, le 2 décembre 1940. Le général de Gaulle m'a donné l'ordre de prendre le commandement militaire du Tchad et celui du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad.
Mon caporal,
J'en suis heureux. D'abord parce que le Tchad est le premier territoire français qui a refusé d'accepter l'esclavage allemand. Ensuite, parce qu'il touche à la Libye et au Niger, ce qui suffit à en démontrer l'importance.
Flexion ! À gauche ! Gauche !
Nous ne poursuivrons ensemble qu'un seul but. Améliorer la valeur combative de nos unités.
Qu'est-ce qu'ils savent faire, tes bons hommes ? Je ne les connais pas encore, sergent, c'est mon premier groupe.
Avec méthode, patience et discipline. Prêts à nous défendre comme à attaquer, aux ordres du général de Gaulle.
Tiens, prends ça. C'est un fusil allemand, c'est les meilleurs. Tu seras le tireur.
Sur cette carte de la Libye, De Gaulle a demandé à Leclerc de se lancer à l'assaut de Koufra. D'abord, de quoi s'agit-il ?
Alors Koufra, c'est une palmeraie qui fait à peu près 50 km sur 20 km. C'est une sorte de grand rectangle où vous avez dedans plusieurs oasis, plusieurs puits, c'est important dans le désert, une population locale qui s'élève à 4500 personnes à peu près, et surtout au milieu, une position fortifiée, le fort El Tag, et une particularité toute récente, c'est un aérodrome.
Pour cette mission impossible, Leclerc est entouré de jeunes officiers, notamment du capitaine Jacques de Guilbon.
J'ai commencé par le préparer cette opération avec lui parce que ça n'allait pas sans dire, vous imaginez bien. Il faut dire que c'est complètement idiot quand on est le Tchad d'attaquer une force méditerranéenne installée en Libye, une force moderne, car les Italiens étaient une force moderne. C'était idiot, mais c'était imposé par les circonstances, parce qu'il était absolument indispensable, ayant fait un coup d'État, ayant refusé l'armistice, de faire quelque chose, c'est-à-dire de se battre, c'est-à-dire d'attaquer. Alors on a attaqué cette oasis de Koufra dans des conditions difficiles, en janvier-février 1941.
Les troupes de Leclerc s'élancent du Tchad, une expédition au long cours en terrain aride.
Leclerc est commandant militaire du Tchad, il est basé à Fort Lamy. Il va rejoindre son quartier général à Fayal-Arjou, donc dans le nord du Tchad. Ça fait 1200 km, donc une sorte, on va dire, Perpignan-Dunkerque. Une fois que vous êtes à Fayal-Arjou, il va vous falloir aller jusqu'à Koufra. Avec, il n'y a pas de route, il y a des pistes, c'est très escarpé, c'est des massifs montagneux. Si on raisonne là encore à vol d'oiseau, vous rajoutez 1200 km, dont 500 km en territoire ennemi. Par ailleurs, quand on regarde les archives, Leclerc part dans l'inconnu, parce que parfois les cartes s'arrêtent. Les cartes du désert, il y a des blancs. Au milieu, eh bien, Koufra est dans un de ces blancs. Donc Leclerc part le 26 janvier 1941 de Fayal-Arjou. Il arrive en territoire italien le 1er février. Il commence à entrer dans ce territoire. Alors, c'est une toute petite troupe, hein, 402 Français libres. Et c'est surtout des Africains, puisqu'il n'y a que 101 Européens qui s'occupent de l'encadrement. À ce moment-là, Leclerc sans doute prend conscience du grand écart que de Gaulle lui fait faire entre une ambition d'un front français libre et la pauvreté de ses moyens. Notamment parce que les matériels qu'il a sont très vétustes. Leclerc aussi manque de renseignements. Par exemple, il ne sait pas combien il y a d'hommes dans Koufra.
C'était une opération qui était risquée, qui paraissait impossible.
Témoignage du général Diot, 1969.
Maintenant, le général Leclerc l'avait tout de même mûrement réfléchi en mettant tous les atouts de son côté. Ce n'était pas simplement un coup de poker, loin de là. Il y a peut-être une chose, c'est qu'on n'avait pas prévu l'essence pour le retour. Mais enfin, ce n'avait pas d'importance, on avait que deux choses à faire, de prendre Koufra ou bien d'y laisser la peau. Mais enfin, autrement, c'était parfaitement raisonné.
Bon. Ouais, viens avec moi, on va faire un peu de mécanique. Vous devinez pas ce qu'il y a comme eau et essence.
Ayez en tête que ce régiment Leclerc n'a pas assez d'essence ni assez d'eau pour effectuer le voyage retour. Donc pour eux, l'équation est simple, c'est prendre Koufra ou mourir dans le désert.
Arrivé face à cette forteresse, Leclerc comprend qu'il faut aller très vite. Et donc, il va donner l'impression avec un canon de 75 mm qu'il a, en fait, c'est pas qu'un canon qu'il a, c'est toute une batterie. Et il va faire tirer par un de ses artilleurs, le capitaine Secaldi, en bougeant très vite le canon à différents endroits pour donner l'impression aux Italiens qu'ils sont cernés. Les Italiens pensent d'autant plus qu'ils sont cernés que cet artilleur est non seulement très efficace mais très chanceux parce qu'il tire sur les lieux de vie des Européens, des soldats italiens qui sont là. Et donc les Italiens voyant que leur sanitaire, leur chambre, leur cuisine, leur salle de repos, leur messe sont touchés, pensent qu'il y a forcément eu des renseignements sur les positions italiennes dans la forteresse, donc ils sont cernés, ils sont encerclés. Cela va aider à la reddition. Et Leclerc, d'ailleurs, sera tout étonné de se retrouver en supériorité numérique par rapport à des Italiens qu'il imaginait beaucoup plus nombreux.
Inutile de gâcher des munitions, ça n'est plus la peine. Ils ne réagissent plus. Donnez ordre de cesser le feu.
Fébriles et inquiets, les soldats italiens acceptent de se rendre, mais à certaines conditions.
Les Italiens ne veulent pas rendre les armes à des Africains. Donc Leclerc, pour aller vite, parce qu'il sait qu'il y a une grande part de bluff dans ce qu'il fait, donc accepte. Et donc la reddition va se faire uniquement d'Européens à Européens. Donc les premiers à rentrer dans Koufra, ce ne sont pas l'essentiel de la troupe, ce sont uniquement les officiers européens.
D'ailleurs, durant ce siège de Koufra, en mars 1941, quels sont les hommes qui composent le régiment Leclerc ?
Pour répondre à votre question, l'expédition de Koufra va réunir 295 militaires africains, chauffeurs compris, pour 101 militaires européens, ainsi que 6 civils.
Eric Jennings.
Et d'ailleurs, sur les 4 tués côté français libre, 3 sont africains et nous connaissons les noms de 2 d'entre eux, Ndonon et Digéal. Sur les 22 blessés, 10 sont africains. Donc, cette forteresse réputée imprenable va tomber le 1er mars 1941, ce qui sera véritablement la première victoire française libre sous pavillon et sous ordre français libre.
Conscient de la puissance du symbole, aussitôt, le général de Gaulle écrit à Leclerc.
Télégramme du général de Gaulle à Leclerc, le 3 mars 1941.
Ouvrez le télégramme.
Le succès français de Koufra est une grande date dans l'histoire de la libération de la France. Les cœurs de tous les Français sont avec vous et avec vos troupes. Colonel Leclerc, je vous félicite en leur nom du magnifique succès de Koufra. Vous venez de prouver à l'ennemi qu'il n'en a pas fini avec l'armée française. Les glorieuses troupes du Tchad et leur chef sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse.
C'est donc bien la première victoire de l'armée française depuis l'effondrement du printemps 1940. Et la légende raconte que le colonel Leclerc aurait fait prêter un serment à ses hommes.
Quand il nous a réunis dans le sable et qu'on a monté le drapeau, il a juré de ne pas s'arrêter tant que ce même drapeau ne flotterait pas sur Metz et sur Strasbourg.
Serment de Koufra, tel que gravé sur le monument du maréchal Leclerc de Haute-Cloque à Strasbourg. Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
Ce serment, ces phrases, ces mots viennent de l'ordre du jour numéro 73 qui est adressé à la 2e DB le 24 novembre 1944, donc 4 ans plus tard. C'est, la trace écrite authentifiée par Leclerc que nous avons ici. Mais c'est 4 ans plus tard. Et c'est après la prise de Strasbourg.
Géraud l'étend.
En réalité, on n'a rien d'aussi précis sur le moment. Par exemple, Leclerc reste très peu à Koufra. Il part le 5 mars. Et le 7 mars 1941, il y a un ordre du jour où il se félicite de la conduite de ses troupes, de l'exploit qu'il vient de réaliser, du patriotisme que cela représente, de la symbolique qu'il faut porter en avant. Mais pas de trace de la cathédrale de Strasbourg. En fait, on a un témoignage d'un des très proches de Leclerc, qui s'appelle Jacques de Guillebon, qui fera partie des rares à être à Koufra et à Strasbourg. Ils ne sont pas nombreux. Qui dit que, en réalité, Leclerc n'a pas fait un serment, mais une sorte de grande causerie, disant que ceux qui commençaient là ne devait s'arrêter qu'à Metz et Strasbourg. Pourquoi Metz et Strasbourg? Et là, vous sentez l'esprit de Saint-Cyr, c'est parce que c'est le nom de sa promotion. Donc, voilà l'objectif qui lui vient en tête, parce que c'est toutes ses racines. C'est devenu, après, une sorte de promesse collective qu'ils se sont fait à eux-mêmes de continuer ainsi le combat, et ils vont en avoir besoin de cette promesse dans les années qui vont suivre pour tenir, quand ils vont souvent attendre, quand ils vont être un peu marginalisés. Mais en tous les cas, le serment, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'a de trace écrite qu'en 1944.
Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
Pas de véritable serment, donc, mais plutôt un discours d'officier,
soldats,
conscient de l'enjeu.
Soyez fiers de servir la France.
L'objectif, c'est forger le moral de ces hommes, parce que c'est une victoire. C'est une victoire militaire.
L'historienne Christine Lévis-Touzé.
Et il va le dire immédiatement pour forger le moral et poursuivre le combat dont on ne connaît pas l'avenir. Il faut doper les hommes. Le 21 mars 1941, il rend compte à l'ensemble de ces hommes, dans un ordre du jour, au plus grand nombre. Et il dit ceci.
Tenir. C'était déjà au cours de la dernière guerre le but principal. Aujourd'hui, il s'agit de tenir, séparés des nôtres, sous un climat éprouvant, dans des conditions morales et physiques souvent pénibles, en ayant parfois l'impression d'être inutile. Tenir combien de temps? Inutile de faire des prédictions. Mais prévoyons toujours le pire, c'est-à-dire une guerre longue. En attendant, tenez. Tenez aussi longtemps qu'il le faudra. La victoire finale est certaine et mérite tous les sacrifices. En remplissant les fonctions qui vous sont données, vous prenez part à la bataille, car selon le désir d'Hitler, la guerre est bien devenue totale.
La prise de Koufra, c'est l'élément capital.
Le capitaine Raymond Drône, 1965.
L'élément qui a d'ailleurs surpris le monde entier et qui lui a montré qu'il y avait encore des soldats français qui se battaient quelques mois après l'effondrement de juin 1940.
C'est une victoire militaire. Elle est importante parce que Leclerc s'impose comme chef face à ses hommes. Jusque-là, les troupes du Tchad ne l'ont pas vu en opération. Donc c'est le premier point important pour lui. Tous, que ce soit les Européens ou que ce soit les Tchadiens, le régiment tirailleur sénégalais du Tchad, pour les Britanniques aussi, et qui l'ont vu à la manœuvre, qui le savent. Et puis la base est bien utile pour eux, comme aérodrome. Et pour le général de Gaulle, après l'échec de Dakar, après cette mortification terrible, et pour les Français en France occupée, c'est une lueur d'espoir dans cette nuit noire. Et pour l'anecdote, Thérèse de Haute-Cloque indiquait à ses enfants, parce qu'on écoute la BBC, « Ce serait bien un coup de votre père. » La confirmation arrivera peu de temps après.
Il y avait un tract qui était tombé dans notre basse-cour ici, relatant la prise de Koufra par le colonel Leclerc nouvellement promu.
Thérèse de Haute-Cloque, 1972.
Je ne savais pas que c'était lui, puisque je ne savais pas le nom qu'il avait pris. Mais j'avais dit à mes enfants, je ne sais pas qui est ce colonel Leclerc, mais il est rudement sympathique, il a le caractère de mon mari.
En mars 1941, Leclerc est à la tête d'un régiment de tirailleurs, composé aux trois quarts de soldats d'Afrique subsaharienne.
Bon, comment utilisez-vous au combat avec les fusils ?
Quel regard l'officier Saint-Cyrien porte-t-il sur eux ?
Alors, c'est un sujet un peu délicat. Il leur porte manifestement une faible estime, du moins pour les troupes issues de l'AIF et du Cameroun, contrairement à celles issues d'Afrique du Nord.
Eric Jennings.
Dès décembre 1940, Leclerc indique au général de Gaulle, je cite, qu'une troupe noire ne possède une réelle valeur que moyennant un Européen pour 10 indigènes. Fin de citation. Alors, l'attaque sur Koufra ne va pas fondamentalement modifier cette vision. Les tirailleurs d'AIF sont, estime-t-il, en mars 1941, je cite, malheureusement peu aptes à cette forme de combat moderne, qu'est la guerre du désert.
Néanmoins, Leclerc sait pertinemment que sans ses soldats tchadiens et camerounais, il n'aurait pas pris Koufra.
Il en a conscience, il le dit dans un ordre du jour, le 7 mars 1941.
Le 2 mars à 8 heures, les couleurs françaises montaient sur le fort d'Eltag, conquis sur l'ennemi après 10 jours de combat. Par cette victoire, le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad montrait à tous que la France n'est pas vaincue et que son armée est résolue à lutter jusqu'à la victoire finale.
La suite est plus intéressante encore.
Nous allons procéder à l'appel des morts.
Il rend hommage aux soldats tombés et il décline le nom des tués tchadiens, des troupes africaines. Et il leur rend hommage. Il rend hommage aussi aux conducteurs pour ce qu'ils ont fait, parce que tout dépendait de l'acheminement, des ravitaillements, etc.
Les conducteurs de camions de cette troupe Leclerc étaient tous des soldats coloniaux. Et à nouveau, donc, sans eux, l'expédition jusqu'à Koufra eût été impossible.
Christian Girard, aide de camp de Leclerc, en 1945. Si la 2e division blindée a pris sa forme en Afrique du Nord, elle est issue dans ses racines profondes du Tchad, de l'aridité, du désert et du roc, d'un pays déshérité qui ne pouvait tenter que des volontés convaincues et dont la solitaire dureté trempait les caractères. Ces hommes, ces coloniaux à la vocation désintéressée, constituèrent sa structure originelle. Ralliés en bloc le 27 août 1940, le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad exemple unique, reste en entier les armes à la main.
Alors, après cette prise de Koufra au printemps 1941, qu'incarne le colonel Leclerc au sein de cette France libre ?
En réalité, en rejoignant la France libre, Leclerc s'est politisé, qu'il le veuille ou non, qu'il le réclame ou non, qu'il n'assume ou pas sa désobéissance. C'est un choix politique.
Géraud l'étend.
D'ailleurs, lui, comme les autres Français libres, ne mentionneront jamais le fait qu'ils ont désobéi. Ils vont trouver plein de tournures de phrases, plein de mots, mais ils ont du mal à nommer cette désobéissance et sans doute ils la vivent mal. Ce pourquoi nous les célébrons aujourd'hui est sans doute quelque chose qui les fait souffrir. En réalité, il est politique dans le sens où Leclerc, c'est le maître d'œuvre, au Tchad en particulier, en Afrique équatoriale en général, de l'inflexion gaulliste qui se produit pendant l'année 1941. De Gaulle, après Dakar, comprend qu'il n'attirera pas d'élite politique, militaire, coloniale à lui. Et donc, pour ne pas se laisser surprendre, De Gaulle change de stratégie et dit « Désormais, l'élite sera créée dans la France libre ». Et donc, Leclerc va profondément donner corps à ce message, parce que pour lui, c'est dans le combat même au milieu du désert avec un très petit nombre d'hommes, que devra jaillir, apparaître l'élite dont la France aura besoin au moment de la victoire. Donc, je dirais que Leclerc est politique parce que il va mettre en œuvre, dans son territoire, cette inflexion gaullienne qui se produit à ce moment-là.
Ainsi, en août 1941, à seulement 39 ans, Leclerc est promu général de brigade.
Opposé ! Entre !
Il incarne une nouvelle élite.
Bon général.
Et quelques semaines plus tard, en octobre, le régime de Vichy s'empresse de le condamner à mort par contumace.
C'est précisément au moment où Leclerc devient le vainqueur de Koufra que la justice de Vichy le démasque, que le pseudonyme ne marche plus et qu'on repère que Leclerc est le capitaine de Hotclock. La justice de Vichy va le condamner, enfin notamment le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, au terme d'un procès par contumace, mais en réalité, ce qui intéresse la justice de Vichy, c'est pas la punition, c'est l'infamie. L'infamie, ça veut dire que, en fait, les biens de Leclerc vont être saisis. Et c'est surtout qu'on veut montrer que la punition a une dimension publique. Donc, sur la mairie de Belloy-Saint-Léonard, dans la Somme, sur l'entrée du château de Tailly, va apparaître une affiche indiquant qu'il y a dans cette maison, il y a dans cette commune, un traître qui, sous le pseudonyme de Leclerc, s'appelle Philippe de Hotclock.
En conclusion de ce troisième épisode, ayez en tête qu'au cœur de l'été 1940, l'Afrique subsaharienne a sauvé la France, offrant à De Gaulle une légitimité politique et à Leclerc l'opportunité de monter un bataillon. Et ce fragile régiment Leclerc est parvenu à s'emparer du fort de Koufra. Une victoire qui ouvre le long chemin vers la libération et qui démontre au régime de Vichy que la France n'est pas unie comme un seul homme derrière le maréchal Pétain, bien au contraire. Enfin, en décembre de la même année,
les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced.
Les États-Unis entrent en guerre et changent la donne. De Gaulle l'a bien compris.
La guerre mondiale est à son point culminant. Le pire va finir. Le meilleur est en marche.
Comment les Américains ont transcendé le destin du général Leclerc, c'est l'horizon du prochain épisode. La cavale du général Leclerc, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Anne Kessler et Laurence Tocker, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Ménahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, L'armée des pauvres. La cavale du général Leclerc est un podcast original de France Inter.